Chapitre 43. Valéria quitte la serre la plus éloignée de la pépinière, prend la brouette et se dirige vers le caveau à légumes. Ses épaules et son dos sont douloureux après le dur travail de la journée. Il ne lui reste plus qu'à aller chercher les sacs de pommes de terre avant de pouvoir prendre une douche et de préparer le dîner. Le caveau à légumes a été creusé sous une colline naturelle recouverte d'herbes et de bouleaux. La fraîcheur de la pièce souterraine lui rappelle toujours l'histoire du roi Svegder dans la saga des Winglingar. Alors que le roi rentrait chez lui après une fête, un petit homme apparut et lui dit qu'il l'emmenait rencontrer Odin. Le petit homme ouvrit une porte cachée dans une énorme pierre, et le roi Svegder découvrit une salle resplendissante. Des lustres pendaient au plafond, et les tables étaient garnies d'assiettes fumantes. Mais dès que le roi passa le seuil de la porte, la grosse pierre se referma derrière lui, et personne n'eut plus jamais de nouvelles de lui. Valéria ouvre la lourde porte, attrape son panier et commence à descendre les marches escarpées. Quelques mèches dans sa queue de cheval brillent comme du cuivre lorsqu'elle passe dans le dernier rayon de soleil avant de disparaître dans l'obscurité. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas descendue dans le caveau, qu'elle n'en a pas eu l'énergie. L'escalier est beaucoup plus étroit que dans son souvenir. À seulement quelques mètres en dessous du sol, règne un tout autre silence. Elle sent que son dos est trempé de sueur. Une odeur de terre et de vieilles feuilles lui parvient. Les bouteilles de sirop de sureau brillent à la lumière du plafonnier. Du sable sec s'écoule d'un interstice entre deux pierres. Pendant l'hiver, la pression de la terre a dû pousser les murs vers l'intérieur, ce qui a rétréci l'escalier. Elle continue à descendre. Ses jambes tremblent. L'air est stagnant. Les bouches d'aération doivent être envahies par la végétation. Elle est presque arrivée en bas lorsque le plafond est traversé de vibrations. De la terre sèche tombe sur le sol et des petits cailloux s'entrechoquent sur les dernières marches. Quelqu'un doit marcher au-dessus d'elle. Son pouls bat à tout rompre. L'air vicié lui donne le vertige. Il faut qu'elle fasse demi-tour et qu'elle remonte à l'air libre. L'escalier lui semble aussi étroit qu'un terrier de lapin, probablement à cause de l'obscurité. Tout en haut, la porte brille comme du laiton. Ses gonces se mettent soudain à grincer. La lumière baisse et elle se referme avec fracas. Valéria lâche le panier et tente de se retenir au mur pour ne pas tomber. Elle respire de plus en plus vite, essaie de trouver de l'oxygène. Soudain, sa vue se brouille et elle s'effondre au sol. Puis la porte s'ouvre et elle entend une voix d'homme. Elle lève les yeux et distingue une fine silhouette dans la lumière extérieure. « Eh oh !» La silhouette s'engage dans l'escalier. « Vous êtes blessé ?» L'inconnu l'aide à se relever et la soutient pour monter les marches. Ses gants de travail lui glissent des mains. Une fois à l'air libre, il l'aide à s'asseoir sur le talus herbeux. Elle prend une profonde inspiration, lève le visage vers le ciel lumineux et se passe la main sur la bouche. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un vertige, » dit-elle. L'inconnu lui tend un gros bouquet de fleurs et un ballon brillant en forme de cœur accroché à une ficelle. « Interflora, je me suis garé ici, » dit-il en faisant un geste vers une fourgonnette sur la zone de manœuvre, « et je vous ai vu disparaître là-dedans. » « Merci. Vous allez mieux ?»« Oui, merci. Alors je m'en vais. » Valéria reste immobile, avec le bouquet et le ballon dans les mains, et suit l'homme des yeux jusqu'à ce que la voiture disparaisse. Elle sait qu'elle devrait se faire aider pour sa claustrophobie. Mais la culpabilité qu'elle ressent à cause de ce qui s'est passé l'en empêche. Juna lui en a parlé à plusieurs reprises. Il estime que son traumatisme nécessiterait l'intervention d'un professionnel, mais elle refuse de s'apitoyer sur son sort. Le soleil rouge de fin de journée se reflète dans les serres. Celles-ci semblent s'emplir de lave. Ses jambes vacillent encore lorsqu'elle se lève et se dirige vers la maison. Elle retire ses vêtements de travail dans l'entrée, se savonne les mains et les rince dans le grand évier en acier de la petite salle d'eau. La ficelle du ballon en forme de cœur est fixée à un écrou qui l'empêche d'aller se coller au plafond. Elle l'attrape, se rend dans la cuisine en sous-vêtements, pose le bouquet sur le plan de travail, enlève le papier Kraft et le jette avec les journaux et les publicités à côté du tas de bois. Elle a reçu 25 roses rouges de Juna. Quelques mots sont inscrits sur la carte. « Pardonne-moi, Valéria, mon amour. » De l'écriture arrondie de la vendeuse. Elle entaille la pointe des roses avec un couteau de cuisine et les place dans un vase qu'elle dépose sur la table de la salle à manger. Elle monte ensuite à l'étage prendre une longue douche chaude, se sèche et enfile des vêtements propres. Après ça, elle retourne à la cuisine et commence à préparer une soupe de pommes de terre. Elle la laisse mijoter sur la cuisinière, prend son portable, s'assied à la table, regarde par la fenêtre un instant, puis appelle Juna. « Merci pour les roses, elles sont magnifiques, » dit-elle. « Pardonne-moi, j'ai été stupide, » répond-il. « Je t'ai fait du mal et j'ai tout gâché simplement parce que je voulais pas être faible. » Avec moi, tu peux l'être. Mais je ne veux pas. Je veux être fort. C'est ce qu'on veut tous. C'est pour ça que j'ai cru que j'avais le contrôle sur les drogues que je prenais. Mais ce n'est pas vrai. Je sais. Je suis passé par là. Elle l'entend prendre une profonde inspiration. Aujourd'hui, j'ai réalisé que la drogue avait retardé l'enquête. À cause d'elle, j'ai oublié un élément important. Et puis j'ai aussi compris ce que je t'avais fait. Ce que je nous avais fait. Bien. Répond-elle en essuyant les larmes qui se sont mises à couler sur ses joues. Ce ne sera pas difficile d'arrêter maintenant que j'ai compris tout ça. Je ne m'inquiète pas. Pour toi, ce n'est qu'une phase. Ta motivation est ailleurs. Tu es passionné par ce que tu fais. Je dois partir en Allemagne dès que je reçois le feu vert. C'est lié à l'enquête. Mais je peux t'appeler après. Moi, je ne vais nulle part, Juna, dit-elle. Juna reste un moment immobile, avec le téléphone dans la main. Murmure un « merci », puis se dirige vers la table de la cuisine où sont étalés tous les documents relatifs à l'orfèvre. Procès-verbaux, photos, coupures de presse et cartes signalant les lieux des meurtres. Juna ne peut se résoudre à cuisiner. Mais il doit avaler quelque chose pour pouvoir travailler. Il ouvre le frigo, voit un demi-sandwich sur une assiette, le mange rapidement, puis rince l'assiette avant de continuer à parcourir le matériel. Il se dit qu'il doit trouver le lien entre les deux tueurs, l'Allemand et le Suédois. Fauster pourrait être le fil qui relie le prédateur à Jurek et aux figurines en étain. Il y a 28 ans, la traque du tueur connu sous le nom de Der Silberschmied aus Berlin, l'orfèvre de Berlin, a connu son apogée. Jakob Fauster a été arrêté à son domicile de Berlin-Est à la fin du mois d'août. Au cours du procès, il a refusé de répondre aux questions, à moins qu'on l'appelle maître. Dès que sa demande a été satisfaite, il a avoué dans les moindres détails les meurtres de 10 jeunes hommes. Par le biais d'annonces, Maître Fauster entrait en contact avec des homosexuels, pour la plupart des prostituées. Se faisant passer pour un homme riche et généreux, il leur donnait rendez-vous sur des parkings déserts, les droguait dans sa camionnette et leur brûlait les yeux avec de l'argent liquide. Il plaçait ensuite ses victimes aveugles à divers endroits de la ville, sur les voies ferrées, puis attendait qu'elles se fassent écraser par un train. Maître Fauster a été condamné à perpétuité et a passé 2 ans à la prison de Moabit, avant d'être transféré dans une unité spéciale nouvellement construite de la prison de Fuhlsbüttel, au nord de Hambourg. Juna commence à feuilleter une évaluation psychiatrique de Fauster lorsque Manvir appelle. On a de la chance, ou peu importe comment appeler ça. La directrice de l'institution de Fuhlsbüttel, Sabine Stern, connaissait Werner personnellement. Elle a été bouleversée quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. « Tu es le bienvenu, » dit Manvir. « Tu pourras parler à Fauster, mais il n'est pas garanti qu'il réponde à tes questions, ni qu'il réponde tout court. « Je prends mes billets sur le champ, » dit Juna. « Il y a autre chose que je dois évoquer avec toi. Tu es seul. demande Manvir en respirant bruyamment. Oui. Juna va se camper devant la grande baie vitrée et regarde la ville qui s'étend devant lui. Le paysage est composé d'une succession de toits gris pâles, argentés, noirs, vert clair. Le bruit de la circulation, pourtant en danse, ne lui parvient pas. Greta et moi avons discuté, nous posons des questions sur le rôle de Saga dans cette affaire. Poursuit Mandevire. Elle se met parfois en colère, mais ça s'arrête vite. Ce n'est pas ça. Ah, elle est très compétente. Dit Mandevire en se raclant brièvement la gorge. Oui, un peu trop même. Elle a toujours une longueur d'avance sur nous, des contacts secrets, et tout tourne autour d'elle, comme on l'a évoqué la dernière fois. C'est à elle que s'adresse le prédateur. Elle connaît toutes les victimes, a eu des conflits avec chacune d'entre elles. Je ne ferais pas correctement mon travail si je ne lui demandais pas si elle est impliquée d'une manière ou d'une autre. Dans les meurtres? Pas physiquement. Elle a un alibi, mais elle pourrait très bien collaborer avec quelqu'un, ce qui expliquerait pourquoi on a toujours un temps de retard. Les dés sont pipés. Bien pensé. C'est courageux de ta part. Mais elle n'est pas impliquée. Je te le promets. Comment tu peux le savoir? Je ne peux pas, mais... Et en plus, elle a un mobile. Si la mort de sa sœur n'est pas la faute de Valeria, c'est celle de la police. C'est la faute de Werner et de Margot. Et en fin de compte, c'est ta faute. Oui, mais... Connais, Saga... Ta loyauté est tout à ton honneur. L'interrompt Mandevire. Mais nous avons entamé une enquête confidentielle sur elle. Je voulais que tu le saches.